petit peu plus.
France Inter, partenaire du festival Premier Plan d'Angers, du 22 au 31 janvier. Venez découvrir la sélection des 100 premiers films européens, revoir l'œuvre de Jean-Pierre Melville, rendre hommage à Guillaume Depardieu avec Jeanne Moreau et retrouver toutes ces informations dans le programme de France Inter. Renseignements franceinter.com. France Inter.
La différence.
15h04, c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Oui, bonjour, c'est Marc des Alpes de Haute-Provence. J'ai écouté Copé ce matin et j'ai été saisi d'angoisse d'un seul coup parce que il nous expliquait que Troglio était l'un des rares à pouvoir diriger EDF. Alors je me suis demandé si c'était pas le seul. Et si jamais il venait à disparaître. Et je me suis demandé si je serais pas plongé dans l'obscurité quotidiennement parce que EDF ne marcherait plus. Est-ce que je pourrais écouter encore France Inter sans électricité? Bon, j'ai pas la télé, ce serait moins gênant pour la télé. Alors j'ai pensé qu'il ferait peut-être lancer un appel. Il faut sauver le soldat Proglio.
C'est Cécile de Bordeaux. Dites donc, j'ai cru que ce matin, Jean-François Copé parlait de moi tout d'un coup en parlant de quelqu'un qui l'avait bien mérité, qui avait beaucoup travaillé, accepté de lourdes charges de travail pour justifier un salaire de 166 000 euros par mois. Mais non, en fait, il parlait du président ou PDG de EDF, Veolia. Et ce monsieur gagne en une journée le prix de la maison que je paierai sur 20 ans après avoir emprunté à ma banque. Et voilà, donc je suis très déçue. J'ai cru que tout d'un coup, j'étais devenue célèbre. Mais je m'étais vraiment reconnue dans ce discours sur le mérite et le dévouement à son travail. Voilà, bonne journée à tous les travailleurs et tant pis pour ceux qui ne le méritent pas. Hein.
Salut Daniel et salut à tous les AMG. J'aimerais en fait attirer l'attention de tout le monde sur la précarité dont certains d'entre nous sont victimes. En fait, je viens de tomber sur l'histoire du jeune Henri Proglio. Eh bien, le courageux Henri, sans doute à cause de la crise, s'est retrouvé avec un emploi à mi-temps. Un petit job de président du conseil d'administration de Veolia, c'est pas grand-chose, hein. C'est un petit boulot à 460 000 euros par an. Eh bien, le courageux Henri n'hésite pas à cumuler les emplois. Sans doute pour mettre un peu de beurre dans les épinards, car je le soupçonne d'avoir des fins de mois difficiles. Il est très discret à ce sujet-là, hein, faut le savoir. Eh bien, le jeune Henri a réussi à se dégoter un petit job de PDG d'EDF à 1,6 million par an. C'est sûr que c'est pas l'Amérique, mais ça aide un peu en cas de pépin, hein. Donc à tous les AMG qui galèrent au quotidien avec des fins de mois difficiles, un petit conseil, hein, entre nous, faites comme Henri, n'hésitez pas à cumuler les emplois de PDG et vous verrez que tout d'un coup, ça ira mieux.
Ouais, salut à tous. Un petit changement dans le repère de Montauroux dans le Var. Il a toujours lieu aux Estérés du Lac chez Hervé et Marif. Par contre, c'est le samedi après-midi, c'est plus le quatrième vendredi de chaque mois, c'est le quatrième samedi à 15h. On y parlera de la venue prochaine de Colin Serrault, normalement fin février, et de la venue de François Ruffin fin mars. Et n'oublie pas, les sociales n'ont rien fait pour abréger les forfaits de l'infamie capitalisme. Heureusement, vint là, anarchiste. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie, prolétaire, c'est la chimie. Ciao, vive, apportez-vous bien.
Je crois, Daniel, que grâce à tes émissions qui participent à leur décodage, nous sommes un nombre grandissant à reconnaître que ce que j'appelle les vilaines petites musiques. Par exemple, la vilaine petite musique de l'identité nationale, ressortie au moment des élections régionales. Par exemple, la vilaine petite musique de « Tout le monde paye la taxe carbone » pour faire payer ceux qui n'ont rien, alors que ceux qui détiennent les entreprises polluantes en exigent l'exonération, et ils l'avaient d'ailleurs obtenue. Celle du marché libre de toute contrainte, pour mieux privatiser les services et fournir du cash à ceux qui détiennent déjà tout. Et, depuis hier matin, la vilaine petite musique de « Nous devons briser les tabous ». D'ailleurs, il n'y a pas de sujet tabou. Du « débat inéluctable ». De « il ne faut pas faire de fixation sur le départ de l'âge à la retraite ». Qui joue cette vilaine petite musique? L'UMP? Le Modem? Le MEDEF? Ou Eli Cohen, chantre du libéralisme? Mais oui, vous y êtes, vous l'avez reconnu. C'est la vilaine petite musique du PS, souvenez-vous. On l'a déjà entendu lors des privatisations de GDF et de France Télécom par Rocard et DSK. On l'a déjà entendu lors du premier recul de l'âge de la retraite à Lisbonne par Jospin. La trahison chante toujours au PS. ainsi que pour M. Placé, numéro 2 des Verts, et pour M. Chérec de la CFDT. C'était si bien joué que Jean-François Copé en était sidéré hier soir. Cela m'a fait rire de voir son sourire ravi par les paroles de Martine Oubry et de Valls, qui en appellent à un pacte national. Je ne sais pas, par contre, si le maçon des travaux publics ou le routier qui fait 50 heures par semaine loin de sa famille ont ri autant que moi. Au revoir et résistons.
Bonjour monsieur, cela fait plusieurs fois que je tombe un petit peu par hasard sur votre émission l'après-midi. Je suis outré à chaque fois que je vous écoute, vous êtes toujours en voyage aux quatre coins du monde. J'ai l'impression que le service public, ça paye bien quand les voyages. C'est où votre prochain voyage? Tahiti, la Nouvelle-Zélande, l'Australie? C'est notre argent monsieur, c'est l'argent du contribuable. Je trouve ça absolument honteux monsieur. Et j'espère que monsieur Valls va remettre bon ordre dans la station. Parce qu'il y a vraiment du laisser aller chez vous. Hein. Voilà, c'était monsieur Jean-Yves Le Drian, hein, de la section UMP du 6e arrondissement. Merci monsieur, au revoir.
Bon, ben voilà, hein, j'espère que monsieur Valls va remettre de l'ordre dans tout ça. Merci en tout cas pour ces messages, chers auditeurs. Dans, vous connaissez le numéro du répondeur de la basse CGC, c'est le 01 56 40 37 37. Ne l'oubliez pas. J'ai oublié de vous dire hier que selon les sondages Médiamétrie, nous comptons 50 000, un peu plus de 50 000 auditeurs de plus dans la basse CGC. On est bien contents. Et toujours selon les sondages Médiamétrie, vous seriez autour de 400 et 450 000 auditeurs à écouter cette émission chaque jour, ce qui est pas mal du tout, ce qui nous ravit. J'espère que vous allez être ravis de cette heure que nous allons passer avec un journaliste israélien. Oui, on est obligé d'aller loin chercher des journalistes maintenant avec les sondages d'opinion qui sortent chaque année, vous savez, sur la confiance que les Français ont envers les médias et les journalistes. Et chaque année, c'est assez décourageant puisque vous êtes plus de 60% à douter de l'honnêteté des journalistes. Alors, vous êtes obligé d'aller les chercher un peu plus loin en Israël. Non, je plaisante, mais on est très heureux aujourd'hui de recevoir Gideon Levy. Gideon Levy est une des grandes figures du journalisme israélien. Et il écrit très régulièrement dans un grand journal israélien qui s'appelle le Haaretz. Et là, il publie aux éditions de La Fabrique un livre intitulé Gaza, et qui sont les articles qu'il a consacrés à Gaza. Alors, pas seulement l'année dernière, au moment de l'opération baptisée Plan Durci, mais depuis plusieurs années. C'est un territoire qu'il a eu l'occasion d'arpenter souvent pour ses reportages. Mais l'an passé, vous vous souvenez, il était impossible aux journalistes d'y pénétrer, et à plus forte raison aux journalistes israéliens. Je parlais au sujet d'Arundhati Roy, des mauvaises consciences. Arundhati Roy, c'est écrivaine. Il y a une auditrice qui m'a dit « Mais pourquoi vous dites une écrivain ?» Alors c'est vrai, j'ai tellement de mal à dire écrivaine, il y a quelque chose dans « veine » là qui me gêne. Mais je vais dire écrivaine, d'accord. Une écrivaine indienne de l'Inde. Et je disais, c'est la mauvaise conscience de l'Inde. J'évoquais Chomsky comme la mauvaise conscience des États-Unis. Eh bien, Gideon Levy, aujourd'hui, est une des, ou la mauvaise conscience d'Israël. C'est une très grande figure, encore une fois, de ce journalisme-là. Et j'espère que vous allez, comme nous, avoir du plaisir et apprendre beaucoup de choses avec au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis. Au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel et toute son équipe et les AMG. Ici Corinne du Repère de Caen au Café Le News. Nous reprenons nos débats, nos hostilités à partir d'aujourd'hui, donc jeudi 21 janvier à 20h30, avec un thème relativement vaste comme d'habitude pour échanger. Le thème c'est quelle police au pluriel pour quelle société. Donc nous vous attendons au News au 15 boulevard Leroy jeudi 21 janvier à 20h30, avec quelques intervenants venant de mondes divers et variés qui ont le courage de venir échanger avec nous. Voilà, je vous remercie. À ce soir.
Oui, bonjour Daniel, c'est Alain de Pantin. J'écoute RMC Info le matin, des fois c'est sympa, il y a des auditeurs qui appellent, on peut juger un petit peu la mentalité des Français, quoi. Alors là, le con du jour, il y en a toujours un, le pire que j'entendais aujourd'hui, c'est un mec qui dit « Je suis au Front National, je veux pas de minerai, j'ai 55 ans, je suis au chômage, et je vote plus à... La gauche n'a rien fait, et la droite ne fait rien. Donc je vote Front National. » Putain, mais qu'est-ce qu'il peut être con, le mec? Mais con, mais comment peut-on être aussi con? Il croit qu'en votant Front National, ça va régler son problème. Il va retrouver du boulot, qu'il aura plus... Non, mais il rêve, le mec, mais il rêve. Complètement à la marge, quoi, mais c'est n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il y a des cons comme ça, et ces cons comme ça, ils votent, quoi. S'ils votaient pas encore, pour dire, on peut rester con dans son coin, mais ils votent. Et c'est le genre de mec qui foutent la merde, quoi. Ils votent, quoi. C'est lamentable.
Salut, c'est la Bassie, j'y suis, c'est Daniel Mermet, avec Gideon Levy pour son livre Gaza, article pour le Haaretz 2006-2009, publié à La Fabrique. Avec nous aussi Eric Hazan et traduction de Give Anquetil. Raison de se réconcilier avec le journalisme aujourd'hui à travers ce livre et ce journaliste, Gideon Levy, qui, je l'ai dit, publie des papiers très régulièrement dans le journal, le grand journal israélien, le Haaretz, et qui donc là publie un ensemble d'articles avec une préface à l'attention des lecteurs français, et il évoque bien évidemment ce qui s'est passé l'année dernière, l'opération Plan Durci. On la commémore pas beaucoup, cette guerre qui, c'est difficile d'ailleurs d'utiliser le mot guerre suppose qu'il y a deux camps face à face, or là ça n'était pas le cas. Vous connaissez le résultat de tout ça, plus de 1300 morts, 100 fois plus que le nombre de morts israéliens, une proportion effarante et inouïe, plus de 5000 blessés, 2400 maisons détruites, 30 mosquées, 120 ateliers ou fabriques, 29 établissements scolaires dans leur sécheresse. Les chiffres ont du mal à donner une idée de la véritable étendue des dégâts. Et aujourd'hui, malgré le fameux rapport Goldstone, qui est accablant pour les autorités israéliennes et pour le gouvernement israélien, celui de l'époque, malgré cela, on oublie, on tourne la page, c'est loin. Et pour ce qui nous concerne, en France, il y a cet effet d'intimidation, d'inhibition lorsqu'il s'agit d'évoquer le conflit du Proche-Orient et de critiquer les politiques qui sont menées dans ce pays. C'est pas du tout le cas de l'homme avec qui nous allons passer cette heure, le journaliste avec qui nous allons passer cette heure, Gideon Levy. Mais pour nous remettre dans l'ambiance de l'année dernière, revenons, chers auditeurs, sur l'adaptation radiophonique d'un mémorable reportage publié dans le journal du dimanche, le JDD, le 18 janvier 2009, sobrement intitulé « Carnet de guerre » et signé par l'inventeur du roman-quête, l'homme le plus entarté du monde, Bernard-Henri Lévy.
Yovan Diskin est le patron du Shin Bet, la mythique et redoutable agence de sécurité intérieure d'Israël. Il est grand, massif. Il n'a, à ma connaissance, jamais parlé. Il me reçoit aux aurores, dans son bureau au nord de Tel Aviv, qui, avec ses meurtrières en largeur, ressemble à un blockhaus. Il faut que vous compreniez qui sont les gens du Hamas. Nous les connaissons ici mieux que personne. J'ai l'impression parfois d'être capable de suivre en temps réel, parfois de précéder leurs moindres décisions. On lui importe un gobelet de café qu'il boit d'un trait. Je fais signe que je sais. Ehud Barak chez lui. Je l'ai vu hier à Palm Hashim, entouré de ses généraux. Je le retrouve aujourd'hui dans ce salon tout en longueur qui semble construit autour des deux pianos dont il joue en virtuose. Il évoque lui aussi le dilemme moral auquel son armée est confrontée. Mais le téléphone sonne. C'est Condoleezza Rice qui appelle pour le presser de conclure très vite un cessez-le-feu. Le ministre pianiste sourit. Le ton monte à Paris. Jean-Marie Le Pen déclare que Gaza est un camp de concentration. D'autres, du côté de la gauche radicale, tonnent qu'il n'y a pas eu, depuis longtemps, pire massacre de musulmans que celui des Gazaouis. Et les 300 000 Darfouris, camarades, et les 200 000 Bosniaques, et ces dizaines de milliers de Tchétchènes que Poutine alla buter jusque dans les chiottes et qui ne vous arrachèrent pas une larme, soucieux, contrairement à vous, d'essayer au moins d'aller y voir. Je suis ce mardi 13 janvier entré à la nuit tombée dans les faubourgs de Gaza City, quartier Abassam al-Jadida, un kilomètre au nord de Khan Younes, embedded dans une unité d'élite Golani. Je sais, pour l'avoir évité toute ma vie, que le point de vue de l'embedded n'est pas le bon point de vue. Et je ne vais pas prétendre en quelques heures avoir capté l'esprit de cette guerre. Mais, cela étant dit, je donne mon témoignage. Les combattants de Varsovie n'avaient pas, hélas, de mines anti-chars du type de celles qui vient d'exploser sous les rues du véhicule passé 20 minutes avant le nôtre. Leurs assaillants n'avaient pas la lassitude, le dégoût profond de la guerre qu'expriment le commandant Guidi Kferel et les quatre réservistes qui nous accompagnent. Et puis, enfin, je peux me tromper, mais le peu, très peu, que je vois, building plongé dans l'obscurité, mais debout, vergers à l'abandon, la rue Khalil al-Wazir avec ses commerces fermés, indique la ville sonnée. Transformée en souricière, terrorisée, mais certainement pas rasée, au sens où pure lettre Grozny ou certains quartiers de Sarajevo. Peut-être serais-je démenti quand la presse entrera enfin dans Gaza, mais pour l'heure, c'est encore un fait.
Bon, ben voilà, on reçoit Monsieur Lévy, on va parler de Gaza, et vous êtes journaliste, donc on a compris. Et non, c'est pas Bernard-Henri Lévy, c'est Gideon Lévy, il faut pas confondre les deux journalistes. Il y a une différence entre Bernard-Henri Lévy et vous.
Grande différence.
Oui. Vous pouvez la définir un peu en quelques mots.
I can only tell you that I saw him once in the war in Georgia. He came for one day with all his entourage and with his white shirt.
Je peux vous dire que je l'ai vu arriver une fois, c'était pendant la guerre de Géorgie. Il arrivait un jour avec tout son entourage, son appareil et puis sa chemise blanche.
And he took the right pictures and stood in the right position and a few hours later he was gone.
Il a pris la pause, il est resté pour les photos au bon endroit et puis quelques heures après il est reparti alors que moi je suis resté sur place.
Oui, mais il était aussi à Gaza l'an passé.
I guess so. I don't follow him so carefully.
Je pense, j'imagine, mais je suis pas vraiment très consciencieusement ses travaux.
Il était à Gaza l'année dernière et il a pas du tout vu la même chose que vous et il ne dit pas les mêmes choses que vous sur Gaza.
Yeah, we carry the same family name, but I guess we don't see eye to eye the same reality. He's coming on behalf of a very right-wing, I would say, Zionistic point of view. I'm trying to see it in a different way.
On partage le même nom de famille, mais pas la même vision sur les choses. Et même si on voit la même chose, on n'y met pas la même charge. Lui, il arrive avec son point de vue sioniste très à droite, alors que moi, j'ai une autre vision sur la même réalité.
Vous voulez dire que vous avez un point de vue sioniste à gauche ?
It's the question, how do you define Zionist?
C'est la question de savoir comment on définit le sionisme.
Zionism became a very fluid, very flexible concept. Everyone can take it. Everywhere.
C'est un concept qui est devenu très fluide, très flexible, que chacun peut utiliser à n'importe quelle sauce.
If Zionism means supporting the occupation, then not only I'm not Zionist, I'm anti-Zionist.
Si être sioniste veut dire soutenir l'occupation, je ne suis pas simplement pas sioniste, mais je suis même anti-sioniste.
If Zionism means the right to have a Jewish state or at least a just state for the Jewish people, then I'm a Zionist.
Mais si le sionisme veut dire le droit d'un État juif, ou en tout cas un État juste pour le peuple juif, alors dans ce cas-là, je suis sioniste.
Dans vos textes, Gideon, vous dites souvent « je suis patriote ».
Yes, I consider myself as a patriot. I know that many Israelis are quite amazed when I say so.
Oui, je me considère comme un patriote, même si je sais que beaucoup d'Israéliens sont surpris quand je dis ça.
I think that no Israeli cares more about the future of the state of Israel than me.
Je pense qu'il n'y a pas d'Israélien qui soit plus soucieux de l'avenir de l'État d'Israël que moi.
It's only because of my patriotism that I feel so guilty and so ashamed about what is being done on my behalf, on my name.
Et c'est justement à cause de mon patriotisme, et seulement à cause de mon patriotisme, que je me sens autant coupable et que j'ai tellement honte de ce qui est fait par mon pays en mon nom.
Alors, on est avec Gideon Lévy autour de ce livre qui sort à la Fabrique, qui s'intitule Gaza. C'est-à-dire, c'est un ensemble de textes publié dans le Haaretz entre 2006 et 2009. On a avec nous Éric Azan, l'éditeur de La Fabrique. Éric, pourquoi ce bouquin ?
Je pense qu'on a lancé ce projet parce qu'il nous semblait qu'après la sinistre opération Plomb durci menée par l'armée israélienne il y a maintenant un an, on ne parlait plus de Gaza. Ce qui se passe en pareil cas, c'est que pendant les événements, il y a une pression médiatique. On n'entend plus parler que de ça. Et puis ensuite, les événements s'interrompent et on a l'impression que l'affaire est réglée. Et on a demandé à Gideon Lévy de publier ses articles. D'abord parce qu'il montre que l'affaire ne date pas d'hier, hein, puisque les premiers papiers de ce livre datent de 2006. Mmh. Et que cette affaire qui ne date pas d'hier n'est pas non plus terminée, puisque les derniers papiers datent de l'été 2009. C'est donc une longue affaire dont le pic médiatique n'est qu'un pic médiatique. C'est une affaire qui dure et qui est intolérable.
Alors il faut dire que Gideon Lévy est une figure importante des médias et de la vie intellectuelle et presque politique en Israël. Vous écrivez dans le Haaretz depuis très longtemps. Il faut peut-être dire ce qu'est le Haaretz et la place particulière que vous y occupez.
Haaretz is the oldest Hebrew newspaper which still appears. It's private owned.
Haaretz est le plus vieux journal hébreu encore en parution. Il appartient à des privés.
And it's, in my view, almost the only real newspaper in Israel.
Et c'est de mon point de vue le seul vrai journal en Israël.
It's the only newspaper which is not part of the general brainwashing.
Le seul journal, en tout cas, qui ne fasse pas partie de ce lavage de cerveau généralisé.
And it's not that all the people in Haaretz or the Haaretz line is exactly my line.
Mais c'est pas non plus que la ligne de ce journal représente la mienne, pas du tout même.
But it's the only newspaper that a person like me could have written.
Mais c'est le seul journal dans lequel quelqu'un comme moi pourrait écrire.
Not only this, that I'm covering the Israeli occupation over 20 years there with a full encouragement of my editors.
Non seulement je couvre les opérations israéliennes depuis plus de 20 ans maintenant avec le soutien absolu de mes rédacteurs en chef.
Not only I gain a full freedom of speech, whatever I think I can write, whatever I write is being published.
Non seulement j'ai une absolue et complète liberté d'expression, tout ce que je pense et tout ce que j'écris est publié.
I'm also a part of the editorial board. I was deputy editor of Haaretz. And I feel part and parcel of Haaretz, which shows again that Israel is a democracy.
Et non seulement je fais partie aussi du conseil éditorial, que ce journal compte pour moi et qui fait partie de ma vie, mais ça montre aussi à quel point Israël est une démocratie.
A democracy only for its Jewish citizens, but for them, it's a real democracy.
Une démocratie qui ne s'applique qu'à ses citoyens juifs, mais pour eux, c'est une vraie démocratie.
Là, là, tout de suite, vous êtes polémique, vous cognez.
You start hitting right away.
Yeah, sure. This is what I'm paid for, being paid for.
C'est pour ça qu'on me paye.
Ceux qui vont découvrir, qui vont vous découvrir à travers ce recueil d'articles publiés donc entre 2006 et 2009, vont rencontrer une prose, un style d'écriture qui est à la fois fort, violent, souvent violent,
dans une prose accessible, populaire et très savant en même temps. Mais c'est avant tout un miroir que vous tendez à la société israélienne. C'est-à-dire que vous montrez à vos compatriotes, à travers votre vision morale, ce qu'ils sont, ce qui se passe dans ce pays.
I can only agree to everything you said.
Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce que vous dites.
That's exactly what I'm trying to do.
C'est exactement ce que j'essaie de faire en tout cas.
I'm trying to write to the Israelis things that most of the Israelis do not want to read.
C'est-à-dire écrire pour les Israéliens ce que beaucoup d'Israéliens ne veulent pas voir, ne veulent pas lire.
I'm trying to tell the story of what is happening in the backyard of the Israeli society, half an hour away from our homes.
Essayer de montrer aux Israéliens ce qui se passe dans l'arrière-cour de la société israélienne, à même pas quelques kilomètres de chez eux.
A story that most of Israelis know very little about and want to know very little about.
Une histoire que beaucoup d'Israéliens connaissent très peu et ne veulent surtout pas connaître davantage.
And the Israeli media is doing anything possible to enable the Israelis not to know.
Et les médias israéliens font tout leur possible pour faciliter cette ignorance des Israéliens.
But don't be wrong. It's just a whistle in the darkness. I don't think that my voice is a very dominant or influential voice in the Israeli society.
Mais faut pas vous leurrer non plus, je pense que c'est vraiment un appel dans le désert et que ma voix n'est pas une voix d'importance ou qui compte en tout cas dans la société israélienne.
Le dernier chapitre du livre finit, c'est un papier du 19 juillet 2009, où vous finissez en décrivant Israël en juillet dernier. Et ce que vous nous dites, c'est que tout va bien en Israël. On s'amuse, on se bronze au soleil, on est à la plage, on est à Tel Aviv, on s'amuse avec les copains. Bien sûr, on considère que c'est un pays avec des pauvres, mais moins pauvres qu'ailleurs. La sécurité, Israël vit dans l'insécurité. Il y a une guerre quelque part, mais enfin, c'est très loin, comme si les choses étaient très loin. Tout va bien, il y a une sorte de confort moral, puisqu'on parlait de la morale. Et ça, c'est assez rare qu'on ait ce portrait de ce pays vu de cette façon. Évidemment, c'est très provocateur.
It is really like the Titanic, you know, also life on the Titanic was wonderful until something
Il y avait un orchestre.
comme la vie qui était formidable à bord du Titanic jusqu'au dernier moment.
There is a whole setup which enables the Israelis not only to continue with their very good life, and life at least in Tel Aviv is wonderful.
Il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour que les Israéliens continuent à vivre leur vie parce que la vie à Tel Aviv est merveilleuse.
Not only not to ask moral questions about what they are, what is being done on their names, where are they going to.
Mais c'est pas juste de se poser des questions morales sur qu'est-ce qu'on fait en mon nom, où va-t-on, que se passe-t-il vraiment?
I'll tell you more than this. Most of the Israelis feel very, very good about themselves. They really, truly believe that the Israeli IDF, the Israeli army, is the most moral army in the world. They truly believe in it.
Mais plus encore, la plupart des Israéliens sont très bien avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et ils sont tous intimement convaincus que l'armée israélienne est la meilleure, la plus juste armée au monde.
They truly believe that they have a right, as the chosen people, to govern in a brutal, cruel, inhuman way in the fate of 3.5 million Palestinians without any hesitations, any restrictions.
Ils pensent sincèrement qu'ils ont le droit, en tant que peuple élu, de régner d'une manière violente et brutale, de présider au sort de 3,5 millions de Palestiniens.
And above all, they believe that this can continue forever.
Et surtout, ils pensent que ça peut continuer ainsi à jamais, pour
Alors,
toujours.
Si je prends l'autre côté du livre, le début du livre, vous avez pris soin de faire une préface à l'attention des lecteurs français. Parce qu'évidemment, votre public, il est israélien. Je suppose que c'est à la demande d'Éric Azan que vous avez écrit ces lignes. Et vous racontez une petite histoire. Vous étiez une fois à Gaza avec des confrères français de TF1. Il y avait une scène terrible, des gens qui s'étaient fait assassiner. Et vous dites, c'est dans ces moments-là que j'ai honte d'être israélien. Ce missile a été tiré aussi en mon nom. Vous avez dit ça devant la caméra de TF1. Et le lendemain, le confrère vous appelle et vous dit, tu sais, on ne pourra pas diffuser ce que tu as dit, c'est trop radical pour les téléspectateurs qui risquent d'être furieux. C'est-à-dire que vous pouvez dire, vous, en Israël, dans la presse israélienne, des choses qui, ici, vont choquer. Et ce bouquin risque de choquer l'opinion française, qui est très inhibée par rapport à ce qui se passe en Israël. Il y a un halo de soupçons et d'inhibitions pour toutes les informations qui viennent de là-bas.
So first of all, I'll be very, very careful here, so my words will be broadcasted.
Et donc c'est pour ça que je vais faire très attention ici, puisque mes propos vont être radiodiffusés.
Though I know that your program has a reputation of being really free.
Même si je sais que ce programme a une réputation d'être vraiment libre.
It was a shock for me. This incident that I mentioned there was really a shock for me.
Mais cet événement qui est mentionné dans ce livre, c'était vraiment un choc pour moi.
An Israeli journalist who feels that he is ashamed, at least for a moment, of being an Israeli, facing such a terrible atrocity. It was one of the worst stories I wrote about.
Être un journaliste israélien qui a soudain, au moins pendant un moment, honte d'être un Israélien parce qu'il a sous les yeux des atrocités et celle-ci, c'était la pire. C'est l'événement le pire que j'ai eu à décrire.
What other sentiment can you feel when you meet a paralyzed woman who lives by her own, who had only one daughter and she lost her daughter in her sleep from an Israeli missile?
Que dire quand on voit une femme paralysée qui était seule avec sa fille et qui a perdu sa fille parce qu'en pleine nuit, un missile israélien leur est tombé dessus?
Any human being and any Israeli could feel anything else but real deep feeling of shame and guilt.
N'importe quel être humain, n'importe quel Israélien ne peut ressentir qu'un profond sentiment de honte.
And then I told it to the French TV, and then this cannot be broadcast in this country.
Et que les journalistes français me disent après, mais que ces propos-là ne peuvent pas être diffusés.
I must tell you, I was really, really shocked.
Je peux vous dire que ça m'a vraiment beaucoup choqué. عشان يبنوا الحيط فرجعت لهم اتلثم بس عيني مبينين من ورا القناص معاي رصاص بستنى في الباص بركي صدت كم الراس عين تستنى وعين تتمنى يكون في طريقة تانية مش عارف رأيي بتغير كل ثانية عقلي طار افكار مثل النار حامية. Just an everyday Joe blogs, caught up in war fogs. On road, shoot with their bodies being eaten by dogs. Worried, room septic, feel poorly. Hid up in a house, telling story, horror, glory. Town to the front line, no glory, pain. So number 24 name, Abdurrahman, Walaikum Salam. Salam Alaikum at the brain. Prisoner with a maddest wisdom, strong character of noble standing, conviction. Beautiful citizen, treated like dirt. Told me the story about his daughter and how much it hurt. Little Jude, meaning generosity, gift from Allah. Giving to the world so much, inshallah. Sister to Salam, peace. Sister Harrier, freedom. After work 30 hours a week just to feed them. To see them grow strong, live prosperous and long. Not to die child from a B-52 bomb. Jude on her back, peddling along. I'm in a Nancy, I should show. Habibi Arab moves, dark shadows appeared as she steered the back to the curb. Metal monsters heard muttering her last word. Cry daddy, I spy baddie. Bomb drop tan, Aggie, rubble, wormwood, fag, ashy. Napalm, Nagasaki, Black Leon, Birdman. Just another day in another occupied town.
Quand on lit tous ces reportages, alors il y a encore une fois, il y a deux parties, si on peut dire, il y a toute une série de 2006 à 2009, et puis il y a la partie sur l'opération Plomb Durci. Là, vous n'avez pas pu entrer à Gaza.
It's now over 3 years that any Israeli journalist was not allowed to enter Gaza.
Ça fait maintenant 3 ans qu'aucun journaliste israélien n'a été autorisé de rentrer dans Gaza.
In any other country, this would have at least created some kind of protest from the journalist associations, from human rights organizations.
Dans n'importe quel pays, ça aurait provoqué des réactions, des protestations d'associations de journalistes, d'associations de droits de l'homme.
And in Israel, everyone is happy about it. Nobody protests. And when I once asked the Minister of Defense of Israel, Ehud Barak, about this undemocratic, illegal, in my view, order, he claimed at least that he didn't even hear about it.
Et tout le monde trouve ça normal et acceptable. Et moi-même, quand j'ai pris à partie le ministre de la Défense, Ehud Barak, en lui disant que cette loi était liberticide et antidémocratique, il a dit qu'il ne savait même pas. Dans quelle mesure elle s'appliquait.
Which shows how little the Israelis really want to know about what's going on in Gaza and how little the Israeli media wants to tell them.
Ce qui montre encore une fois à quel point les Israéliens ont peu envie de savoir ce qui se passe à Gaza et à quel point les journalistes israéliens ont peu envie de leur montrer ce qui s'y passe.
Vous évoquez les politiques israéliens. Vous avez été conseiller, je crois, de Shimon Peres à un moment. Quelles sont leurs réactions en lisant vos papiers? Est-ce que vous savez comment ils réagissent en vous lisant?
It differs. I mean, the worst for me is indifference and apathy.
Ça diffère, en fait. Le pire pour moi, c'est l'indifférence et l'apathie.
Vous faites tout pour pas laisser les gens indifférents.
You do all you can not to leave okay. people.
Okay. If I make people furious, if I make people angry, this is already a step forwards for me because they feel, I believe, that something is burning under their legs.
S'ils sont en colère, s'ils sont furieux, au moins ça fait un pas en avant, d'après moi, pour qu'ils réalisent à quel point il y a quelque chose qui est brûlant, qui couve.
One thing I'm very proud about. Not one single story that I wrote for over 20 years was ever denied as wrong one from the factual point of view.
Une chose dont je suis très fier, c'est qu'aucun des reportages que j'ai fait au cours des 20 dernières années n'a été montré du doigt ou pointé du doigt pour des erreurs factuelles.
And believe me, so many are trying so hard to find some errors, some mistakes, some facts which are not correct. They never found anything because I'm so careful, because I know that I have to stand on a very solid factual ground.
Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui s'échinent à recouper les informations pour trouver la moindre once d'erreur factuelle ou de contre-vérité. Et c'est pour ça que je porte ce souci particulier depuis le début, à reposer toujours sur des bases factuelles.
On a dit que vous étiez une épine dans le flanc d'Israël.
This is too pretentious for me.
C'est trop prétentieux pour moi.
But I'm trying.
Mais j'essaye.
Ce qui se dégage de tout ça, c'est que, pour ce qui concerne au moins l'opération Plomb Durci, il y a un an, ce que vous dites, c'est que c'est Israël qui a perdu, qui a moralement perdu. Et vous vérifiez, ou vous donnez chair, et comme vous dites, des images et des idées sur la phrase fameuse qui dit qu'un peuple qui opprime un autre peuple n'est pas un peuple libre. C'est ça votre obsession, c'est de dire nous perdons, nous, Israéliens, nous perdons.
Listen, the first victims are still the people of Gaza, are still the Palestinians who live under occupation.
Mais les premières victimes sont toujours les populations de Gaza, ce sont toujours les Palestiniens qui vivent sous l'occupation.
And they are the ones who lost in this war immediately. I don't call it a war, it was a brutal attack, not a war. But those tens of thousands of people who lost their homes, who lost their relatives, who became paralyzed for the rest of their lives.
Ces dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu des proches, qui sont retrouvés paralysés dans ce qu'on n'appelle pas une guerre, mais qui était une opération militaire.
The hundreds of children and women who were killed in this operation, they lost more than anything else.
Les centaines de femmes et d'enfants qui sont mortes dans ces opérations militaires, eux, ont perdu plus que tout.
But if you look at Israel 1 year ago and Israel of today, even my biggest opponents will have to agree that Israel was never so condemned in the world. Being an Israeli was never so shameful in Europe like in this year.
Mais dans l'année qui s'est écoulée, aucun de mes opposants politiques ne pourra me contredire là-dessus. L'Israël n'a jamais été si mal vu, si condamné aussi unanimement à travers le monde, et ça n'a jamais été aussi honteux d'être un Israélien.
And all this with very good reasons. I mean, Israel had deserved it.
Et Israël l'avait mérité, c'était pour des bonnes raisons.
Oui, mais la réponse, elle est dans le dernier papier qui figure dans ce livre, parce que ce que vous dites, les Israéliens se vivent comme un ghetto enfermé et tout le monde est contre nous, tout le monde est contre nous, mais on s'en fout. Donc on a l'habitude que tout le monde soit contre nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en Israël, qu'on vit en Israël, et que tout le monde soit contre nous, ça vérifie bien le sens de notre vie ici.
That's part of the problem.
Ça fait partie du problème, effectivement.
The fact that Israel not only doesn't listen to the world, doesn't listen to the criticism, which is today almost from wall to wall, all over Europe, all over the world.
C'est le fait que les Israéliens n'écoutent pas, Israël n'écoute pas les critiques qui sont faites d'une manière quasi unanime à travers le monde.
Israel, instead of listening, instead of at least checking itself, maybe something went wrong.
Au lieu d'écouter, au lieu de même de simplement de vérifier si quelque chose n'allait pas effectivement mal.
Israel is now concentrated in attacking half of the world who dared to criticize it.
Israël passe maintenant toute son énergie à critiquer la moitié du monde qui ose condamner ses actions.
So Richard Goldstone, who is a declared Zionist.
Et Richard Goldstone, par exemple, qui est un sioniste déclaré.
Whose daughter was living for 12 years in Israel.
Dont la fille a vécu 12 ans en Israël.
Was declared in Israel as an antisemitic.
A été dénoncé en Israël comme étant antisémite, rien de moins.
Israelis threatening half of the world, from Turkey to Norway, from Sweden to anyone who dares to criticize Israel.
Et Israël attaque partout dans le monde, de la Turquie à la Norvège, tous ceux qui osent émettre un critique sur Israël.
And I'm afraid that Israel slowly will become the next North Korea.
Et j'ai peur qu'Israël, doucement, lentement, devienne la prochaine Corée du Nord.
Ça, c'est du Gédéon Lévy, ce genre de formule. Gédéon, à travers tous ces reportages, on voit ce que vous êtes, c'est-à-dire vous êtes d'abord un reporter, c'est-à-dire un homme de terrain qui va avec ses pieds et son corps là où ça se passe, avant tout. Et les idées que vous avez, ce que vous développez devant nous, que vous développez aussi dans le bouquin, c'est pas des idées ex abrupto, ça vient de cette expérience du terrain, etc. Mais quand même, est-ce que vous pensez pas que la solution ou que la question n'est pas là, mais plutôt à Washington?
Listen. I would hope, I would dream, I would do anything possible that the change will come within the Israeli society.
Moi, je rêve, je ferai tout ce possible, je caresserai le rêve que le changement vienne de l'intérieur de la société israélienne.
All my professional efforts are aimed to bring a change within the Israeli society.
Et tous les efforts que je fais par mon métier, c'est pour aider à amener ces changements dans la société israélienne.
But the chances for this are almost zero right now.
Mais les chances que ça arrive sont pratiquement nulles à ce jour.
The Israeli society does not pay any price for the occupation, and therefore no change will come from within.
La société israélienne ne paye en aucun cas, en aucune mesure, le prix de l'occupation, et de ce fait, aucun changement ne viendra bousculer tout cela.
So now the last hope is, you know, some help from our best friend, and who is our best friend? The United States.
Et maintenant, donc, le dernier espoir qui reste, c'est de l'aide de notre meilleur ami. Et qui est le meilleur ami d'Israël? Ce sont les États-Unis.
To save Israel from its own hands.
De sauver Israël de sa propre main, du sort qu'elle se fait.
But unfortunately, the last year was not a very promising one, and the disappointment from Barack Obama is as big as the expectations were.
Mais malheureusement, l'année qui vient d'être écoulée n'était pas très très engageante et les déceptions qu'a provoquées Obama sont à la hauteur des espoirs insensés qu'on avait mis en lui.
Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe?
Much more than it's doing.
Beaucoup plus que l'Europe n'en fait.
I think Europe could have played a hell of a role.
L'Europe aurait pu jouer un grand rôle.
Europe has an interest, maybe more than the United States, to solve this ongoing dispute because it is in the backyard of Europe.
L'Europe a peut-être même plus intérêt que les États-Unis de résoudre ce contentieux parce que c'est vraiment dans l'arrière-cour de l'Europe que ça se passe.
But look what Europe is doing in the middle of the war in Gaza. All the leaders of the new Europe, the new spirit of Europe, the united Europe, are going to Israel to salute to the Israeli Prime Minister when his army is bombing without any restrictions Gaza, don't even bother to go to see Gaza. And some of those head of the EU even say this dinner at Ehud Olmert's home was one of the most interesting and lovely dinners they've ever had.
Mais regardez ce que fait l'Europe en plein milieu des opérations plomb durci. La délégation de la nouvelle Europe, de celle qui se veut le nouveau visage de l'Europe, va en Israël rencontrer le Premier ministre Ehud Olmert sans aller à Gaza. Et certains même de la délégation disaient que le dîner qu'ils ont passé chez M. Olmert, le Premier ministre, était un des meilleurs qu'ils aient fait.
And not only this, let's remember, Europe is a full partner to the shameful siege on Gaza. And the boycott on Gaza.
Et pas seulement ça, l'Europe est un partenaire de ce siège honteux qui a été imposé, ce boycott imposé à Gaza.
Comment
maybe the first example in history in which the world is not boycotting the occupier but the one who is occupied.
C'est peut-être le premier exemple dans l'histoire où le monde entier boycotte non pas l'occupant mais l'occupé.
Comment expliquer cette couardise?
It's a combination of like any complex question, it's more than one reason.
Comme toutes les questions compliquées, il y a plus d'une raison, c'est une combinaison.
But I will mention maybe two or three.
En voilà au moins deux ou trois.
First of all, the Holocaust is still very, very present in the relations between Israel and Europe, and very rightly so.
D'abord, l'Holocauste est encore très très présent et à juste titre dans les relations entre l'Europe et Israël.
What is not rightly so is the manipulation that Israel is doing from time to time.
Ce qui n'est pas légitime, par contre, c'est les manipulations qu'Israël fait parfois à propos de l'Holocauste.
Secondly, we have to face it that there is an anti-Islamic wave in Europe, which Israel gains a lot out of it.
Deuxièmement, il y a un mouvement anti-islamique en Europe dans lequel Israël se retrouve parfaitement.
And the third factor is that Europe is still looking at Washington and doing whatever Washington is dictating.
Et un troisième facteur, c'est que l'Europe a toujours les yeux vers Washington et fait tout ce que Washington lui dicte.
C'était pas le cas de la France jusqu'à un certain point pour ce qui concerne le Proche-Orient.
Yeah, but this goes back 30, 40 years ago.
Oui, mais là, ça nous ramène 30 à 40 ans en arrière.
Діли, білі куранти, родина нас проважала в емігранти. Самольоти, поїзда, машини, автобуси раз бросали нас в разных точках глобуса. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не ходите нас искать, ми далеко. Нас уже, пожалуй, не догнать. Ми там, где себя не могли представить ранее. Америка, Израиль, Германия. Уезжали, улетали в дальние дали. Переживали, как все будет в начале. Очень осторожно, обойдя таможню в пункте назначения, багаж свой выгружали. Новые места, чужие города, хайвей, бродвей, остальная красота. Пестрая экзотика для нашего глаза рвала крышу сразу.
Alors, vous avez un chapitre où vous nous parlez des petits Ahmadinejad. C'est-à-dire, on sait Ahmadinejad qui fait des discours depuis Téhéran où il envisage très sérieusement de détruire Israël et ses habitants. Mais vous nous dites, oui, mais des Ahmadinejad, il y en a plein en Israël. Et vous donnez la liste d'une bande de cinglés, tout aussi cinglés qu'Ahmadinejad, qui ont des projets complètement fous, mais plus fous les uns que les autres. Et cela, on les ignore.
Listen, the Israeli society doesn't look at itself.
Gideon Levy.
You never see your own hunchback, yeah?
L'Israélien se voit comme un bossu qui ne peut jamais voir sa bosse.
And same for the Israeli society. And we don't see that little Ahmadinejads are being brought up in Israel in the settlements project.
Et les Israéliens ne voient pas que des petits Ahmadinejad sont élevés en Israël dans les colonies.
They are still very little and they are much less dangerous to the future of the world like the real one.
Ils sont bien sûr peu nombreux et beaucoup moins dangereux pour l'avenir de l'humanité que ne l'est le vrai Ahmadinejad.
But one should listen to the voices that are coming from there.
Mais par contre, il faut prêter attention à ce qu'ils disent et aux voix qui s'élèvent depuis là-bas.
Racist, nationalistic, militaristic,
nationaliste, militariste.
And again, as a genuine Israeli patriot, I have to take into account that this is part of Israel today.
Et encore une fois, en tant qu'authentique patriote israélien, je dois prendre en compte ce qui se dit dans mon pays.
Est-ce que vous avez cru à la paix depuis que vous faites ces reportages, depuis que vous êtes journaliste? Ça fait 20 ans que vous travaillez pour le Haaretz, hein, c'est ça?
Oui. Mais
est-ce que par moment, je pense à Oslo par exemple, est-ce que vous y avez cru?
Yes, I believed in Oslo.
Oui, j'ai cru à Oslo.
And now, 10-15 years later, I realize how stupid I was, how naive I was.
Et maintenant, 10 à 15 ans après, je m'aperçois à quel point j'ai été stupide et naïf.
Vous faites un constat finalement très amer.
It's a bitter analysis of someone who had hopes and lost many hopes.
C'est quelqu'un qui avait des espoirs et qui en a perdu beaucoup.
Of someone who sees how his own society is going really in a way which might not have a way back, irreversible way.
Quelqu'un qui voit qu'à travers la société dont il vient est en train de prendre un chemin peut-être irréversible.
Of someone who feels more and more lonely in the Israeli society.
De quelqu'un qui se sent de plus en plus seul dans la société israélienne.
And of someone who sees how Israel, by its own hands, is doing anything possible not to get to peace, not to be accepted in the region, and risking the whole project, the whole Zionistic project.
Et de voir comment Israël fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas avoir la paix, pour ne pas amener la stabilité dans la région et mettre en péril même le projet sioniste tout entier.
Quelles seraient les pistes à nouveau pour aller vers cette paix? Quelles sont les pistes pour aller vers une solution?
Anything must start with putting an end to the occupation.
Tout doit commencer en mettant un terme à l'occupation.
This occupation is illegal.
Qui est illégal.
Is criminal.
Qui est criminel.
Is not human.
Qui est inhumaine.
And must come to its end in an almost unconditioned way.
Et qui doit vraiment être instauré d'une manière presque inconditionnelle.
I'm not sure that putting an end to the occupation will bring a full peace.
Je ne pense pas que mettre fin à l'occupation amènera une paix immédiate.
But it can create a new atmosphere and it can bring the big majority of the Palestinian and the Arab world into new terms with Israel.
Mais ça peut amener un nouvel esprit et surtout amener une partie des populations palestiniennes mais aussi du monde arabe à dialoguer avec Israël sur un nouveau terrain.
I'll give you a short story which will sum it up.
Une petite histoire pour résumer ça.
About this patient who comes to his doctor and the doctor tells him you have a tumor in your kidney.
D'un patient qui va voir le docteur et le docteur lui dit tu as une tumeur au rein.
Ask the patient what should I do?
Le patient demande qu'est-ce que je dois faire.
The doctor says we have to remove your kidney.
Le docteur dit bah il faut enlever le rein.
And then ask the patient if I remove the kidney will I live?
Et le patient demande mais alors après si on m'enlève le rein je continuerai à vivre?
Says the doctor I can tell you only one thing if you will not remove the kidney you will surely die.
Et le docteur répond écoute je peux te dire qu'une seule chose c'est que si on n'enlève pas ce rein tu mourras de façon certaine.
This tumor is the occupation.
Et cette tumeur, c'est l'occupation israélienne.
Ça, c'est la première chose, l'occupation. Et puis?
Et puis, I truly believe that once the occupation will be over, it will be the interest of, first of all, the majority, big majority of the Arab states to get into new terms with Israel. Same for the majority, big majority of the Palestinian people. If they will really have a viable Palestinian state, I think the day that we will ask ourselves what was it all about can come very soon.
Après, c'est de voir que la majorité des populations des pays arabes, mais aussi une grande majorité de la population palestinienne, en arrive à de nouveaux termes, à un nouveau dialogue avec Israéliens, au point qu'on puisse, au bout d'un moment, se dire mais pourquoi on a fait tout ça?
But don't misunderstand me. I don't think we are getting closer to this day.
Mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas du tout convaincu qu'on s'approche de ce jour.
On the contrary.
Bien au contraire.
Alors, on va finir cet entretien avec Gideon Levy. Et on a évoqué, évidemment, le rapport Goldstone de ce, c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a commandé au juge Goldstone ce rapport qui s'est avéré accablant pour l'armée israélienne et les militants palestiniens qui sont accusés au terme de ce rapport d'avoir commis des actes assimilables à des crimes de guerre et peut-être dans certaines circonstances à des crimes contre l'humanité. Cette conclusion a suscité la colère, la fureur et le rejet de la part des autorités israéliennes et pourtant c'est un élément quand même d'appréciation.
I think Israel should be very grateful to Goldstone.
Israël devrait remercier Goldstone, je pense.
I think Goldstone put a mirror in front of the Israeli society.
C'est un miroir qu'il a tendu à la société israélienne.
Israel can scream until tomorrow.
Israël peut crier jusqu'à demain s'il le faut.
Goldstone had formulated the ethical code of the Israeli army.
Et Goldstone a formulé le code éthique de l'armée israélienne IDF.
Why so? Because before launching the next brutal operation like Cast Lead, Israelis will think once and twice and maybe three times before, because after Goldstone, they know that they might pay a personal price.
Et pourquoi je dis ça? C'est parce que la prochaine fois qu'Israël voudra lancer une opération du type de plan durci, ils y penseront à deux fois, peut-être à trois fois. Parce qu'après, effectivement, à nouveau, Israël, cette fois-ci, devra payer le prix.
And finally, Joseph says, and finally, what does Goldstone ask? He asks Israel to check itself, to investigate itself.
Et en bout de
such
compte,
a minimal require, and the Israel reaction is such a negative one, which makes the suspicion that the Israelis know very well that there is very much that should be hidden, that they are ashamed in something that happened in Cast Lead.
Parce que le déni qu'Israël fait des choses, des faits que reproche Goldstone, tente à montrer qu'Israël a effectivement des choses à cacher, des choses qu'elle sait qu'elle a faites.
C'est-à-dire que le rapport Goldstone préconise aux deux parties d'enquêter sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. Et Israël refuse. Je ne sais pas si le Hamas accepte, je n'ai pas l'impression non plus, mais en tous les cas, Israël refuse d'enquêter sur elle-même, sur sa propre action, sur cette opération dont nous parlons, c'est-à-dire plomb durci, ce qui fait qu'on ne risque pas de voir les autorités, les responsables de cette opération israélienne, un jour ou l'autre, devant le tribunal pénal international.
Absolutely so. I would rather see Israeli institutions checking what happened in Gaza. I think it's above all an Israeli interest.
Mais c'est même dans l'intérêt d'Israël d'aller vérifier ce qui s'est passé effectivement à Gaza, recouper.
But if Israel is insisting not even to investigate.
Mais si Israël insiste ainsi à ne pas même vouloir enquêter.
The world has to interfere because we don't want another caste lead happening soon again.
Le monde doit alors intervenir parce qu'on ne veut pas une nouvelle opération plomb durci dans un futur proche.
Ok, je vous remercie beaucoup. En tout cas, la préface indique qu'un autre journalisme est possible et vous en êtes l'incarnation. Vous avez compris, ne loupez pas ce livre de Gideon Levy, Gaza, article pour le Haaretz 2006-2009 aux éditions de La Fabrique. Merci à tous, merci à Eric Azan, merci à Guy Van Til pour les traductions. Et à signaler aussi formidable la bande dessinée Gaza 1956 en marge de l'histoire de Joe Sacco, prodigieux dessinateur que vous connaissez sans doute. C'est paru aux éditions Futuropolis le 7 janvier dernier. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, c'est juste où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Arnaud Caillet et Ludovic Aslo, Koye Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission. Agnès Lebot nous assiste et Catherine Pinto attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
France Inter et le Théâtre du Rond-Point présentent jusqu'au 6 février la Menzogna de Pippo Del Bono. Peut-on accepter de vivre sous la domination du mensonge ? Dans ce nouveau spectacle, entouré de ses fidèles comédiens, Pippo Del Bono invente des stratégies libératrices. Retrouvez Pippo Del Bono le 22 janvier à minuit 5 dans Studio Théâtre de Laure Adler.
16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
L'Europe veut prendre son temps avant de décider de généraliser ou non l'installation de scanners corporels dans les aéroports. À l'issue d'une réunion avec la secrétaire américaine à la sécurité intérieure, Janet Napolitano, venue plaider cette cause, le ministre espagnol de l'Intérieur, Alfredo Pérez Rubalcaba, a déclaré attendre les rapports de la Commission européenne sur le sujet. Des études sur l'efficacité, les effets sur la santé de ces scanners et la question du respect de l'intimité qu'ils posent. L'Espagne qui préside pour 6 mois l'Union. Ces scanners visent à lutter contre le terrorisme et à ce sujet, un passager d'un avion a été arrêté tout à l'heure à Philadelphie et cela en raison d'une alerte à la bombe sur un vol entre New York et Louisville. Selon le site internet de CBS, un passager aurait, après le décollage, fixé sur sa tête un engin doté de fils partant de ses doigts, ce qui a donc provoqué cette alerte. On ne sait rien d'autre pour l'instant. En France, le Quai d'Orsay a recensé près de 400 demandes d'adoption en règle d'enfants haïtiens de la part de familles françaises. Ces enfants pourront donc être transférés rapidement dans notre pays, selon un porte-parole. C'est beaucoup plus que le chiffre annoncé hier. 6 agents administratifs français sont en ce moment dans la capitale, Port-au-Prince, pour localiser et identifier ces orphelins. À noter qu'aux Pays-Bas, un charter a déjà ramené une centaine d'enfants qui avaient fait l'objet également d'une procédure d'adoption. L'ONU, on le sait, a payé un très lourd tribut dans ce drame. 9 jours après le séisme, un dernier bilan fait état de 61 employés tués et près de 180 toujours portés disparus. En France, c'est donc une journée interprofessionnelle de grève dans la fonction publique. Ce jeudi, des milliers de fonctionnaires battent le pavé un peu partout, 1000 à 5000 dans les rues de Bordeaux, 1200 à Nice, autant à Marseille. À Paris, le cortège a quitté la place de la République en début d'après-midi. Quelques milliers de manifestants se dirigent actuellement vers Richelieu-Drouot. Tous dénoncent les réformes de l'État et la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur 2. Dans l'enseignement, le syndicat FSU revendique entre 33 et 40% de grévistes, 2 fois plus que les chiffres officiels du ministère. Mais dans ce secteur, on peut noter que la mobilisation est un peu plus forte qu'en mars dernier. Mobilisation moindre, en revanche, chez les agents de l'État, 12% de grévistes, c'est 2 fois moins, toujours selon les chiffres du ministère. Faible mobilisation également chez les blouses blanches, il y a 2% seulement de grévistes dans les hôpitaux. La crise a bouleversé profondément les habitudes de consommation des Européens, selon une étude de l'Observatoire CTLM. Acheter malin, écolo, équitable, sortir de la consommation frénétique, ce sont des tendances qui s'accélèrent dans tous les pays. Ainsi, une chaîne de magasins français reconnaît avoir enregistré une hausse de 25% des produits bio en 2008 et près de la moitié des ménages interrogés dans cette enquête jugent nécessaire d'acheter des produits d'occasion comme des livres, des CD, des jeux ou des vêtements. Une étude menée auprès de 8000 personnes dans 12 pays d'Europe.
France Inter présente L'armée du crime de Robert Guédiguian en vidéo. Dans Paris occupé par les Allemands, Missak Manoukian prend la tête d'un groupe de jeunes combattants pour participer à la libération de la France. Dans la clandestinité, au péril de leur vie, ils deviennent des héros. Un film coup de poing. Retrouvez L'armée du crime dans les émissions de France Inter.
France Inter, la différence.
16h03, on retrouve Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, je vous propose de continuer l'exploration du disque Chopin qui a été édité par la Folle Journée de Nantes et Mirare, c'est la marque du disque, mais enfin c'est pour évidemment prévoir, laisser présager ces beaux moments de Nantes qui approchent, et Nantes et la région, faut bien dire, parce que la Folle Journée non seulement maintenant s'étend sur plusieurs jours, ce sera à la fin de ce mois, et nous y serons, je rappelle, le vendredi 29 à 16h et à 21h aussi, et Chopin sera partout, Chopin, ses amis, ses proches, son temps en général, ses inspirateurs. Alors donc, voici tiré de ce disque, le journal musical de Chopin, un extrait du deuxième scherzo, composé en 1837. C'est un scherzo, c'est pas seulement un jeu, c'est quelque chose de fantastique, d'angoissé, c'est plein d'élan et même quelquefois de colère. Thank you. deuxième scherzo de Frédéric Chopin, interprété par Momo Kodama. Et Momo, c'est une très belle pianiste japonaise née à Osaka et distinguée par Seiji Ozawa, le fameux chef, entre autres, bien sûr. Puis elle joue aussi bien Messiaen que Chopin. Et c'est admirable. Donc ça fait partie de ce disque journal musical de Chopin. Et France Inter est heureux, avec Mirare, de vous proposer 50 disques à gagner si vous appelez.